بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أم شيخ الإسلام hier على grâce d'Allah on a pu faire un petit récapitulatif des connaissances de base qu'un musulman doit avoir concernant la nuit du destin. On a vu que si des personnes ils se plaignent un petit peu de ne pas savoir comment orienter leur nuit d'adoration, la nuit des ibadas durant les nuits impaires, il y a deux raisons possibles. On a vu que la première raison, c'est peut-être qu'on n'a pas réellement compris quelle est l'importance de la nuit du destin. C'est pour ça qu'hier, on a fait un petit rappel, bref, mais on a cité la plupart des hadiths authentiques concernant la nuit du destin, la date, les choses qui se passent et comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam organisait ses nuits. Et on a vu que le prophète passait l'intégralité de ses nuits en ibadah et il réveillait ses épouses, également les enfants qui avaient la possibilité de se tenir debout. On avait dit, c'est une estimation, hein, c'est pas une science exacte, on peut dire que si un enfant 7 ans, un enfant 8 ans, c'est-à-dire un âge où normalement l'enfant doit commencer à faire la salah, on peut déjà le sensibiliser, on peut déjà le réveiller pour qu'il lui aussi prenne part à la nuit du destin, à la nuit de l'ibada. Maintenant, la deuxième possibilité pour qu'on arrive, inshallah, à passer une nuit en ibada, c'est des conseils à titre indicatif. Parce qu'on ne veut pas sombrer dans les bid'ahs aussi. On ne veut pas dire que voilà, telle personne a dit que c'est comme ça qu'il faut faire les nuits, telle chose à lire. Non, c'est un conseil. Si une personne ne sait pas comment organiser sa nuit et que chaque fois que c'est une nuit impaire, ça devient comme une montagne, qu'est-ce que je vais faire? C'est sûr, je vais m'endormir. Est-ce qu'il faut boire un litre de café pour rester éveillé? Même si je suis éveillé, je vais faire quoi à un moment donné, etc., etc. J'ai discuté avec une personne qui m'avait dit que ben, même en étant à la masjid, m'a dit que de temps en temps, il faut sortir. Il fallait marcher un petit peu dehors et puis revenir pour pas être fatigué. Donc, c'est pas du tout l'objectif. C'est pas comme ça. Parce que quand on dit nuit des ibadas, c'est vraiment essayer au maximum de rester concentré. Alors donc, comme on a dit, à titre indicatif, et une des raisons pour lesquelles on a du mal à se concentrer, c'est que on n'a pas l'habitude de se réveiller la nuit pour faire le qiyamul layl. Alors qu'Allah Azza wa Jal dans le surat Al-Muzammil cite à différentes façons de passer la nuit en ibadah, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layl wa nisfahu wa thuluthahu. Donc il y a des sahaba qui passaient une partie de la nuit, soit la moitié, soit le tiers de la nuit en ibadah, et ces sahaba radhiyallahu anhum ajma'in en général ne fais en sorte de ne jamais rater un qiyam ul layl. Car dès que le prophète والسلام, est arrivé à Medina, al-Nabawiyya, parmi les conseils qu'il a donnés pour accéder au paradis, c'est de prier wan-nasu niyam, de prier alors que les gens dorment. Ça c'est la recette, ça c'est la clé du succès, la clé pour accéder au paradis. Maintenant, on peut donner, donc comme on l'a dit, un exemple type d'une nuit de ibada. Si la personne sait depuis maintenant, il commence. Il faut savoir que quand on parle de nuit impaire, de nuit du destin, les vertus commencent dès la salat de Maghrib. Tout à fait. Les vertus commencent dès la salat de Maghrib. Donc déjà, en faisant le tarawih, c'est déjà une bonne action. On a déjà commencé la nuit impaire avec, alhamdoulilah, un certain nombre de raka'at nafil qu'on a fait de l'imam. C'est déjà une bonne chose. Maintenant, si quelqu'un il se sent pas capable, il se dit qu'à 9h30, je ne peux pas rester 9h30 jusqu'à 4h30 du matin, c'est impossible, il veut dormir un petit peu, on va aller doucement, parce que ce soir c'est la 23e, et si ça a bien marché, comme on a dit, ben, la prochaine nuit impaire, on se réveille un peu plus tôt pour pouvoir au moins passer une des nuits impaires complètement réveillée. Alors, exemple, on peut par exemple se réveiller à 2h30. Et si la personne, quand elle se réveille, il a du mal à bouger, ben, il boit un petit café. Hein, il n'y a pas de souci à ça. Soit un arpeggio, soit un ristretto, c'est à lui de voir en fonction de sa capacité de supporter la caféine. Mais ça réveille. Alors, ce qu'il faut savoir également, c'est que lorsque le prophète alayhi salatu wassalam se réveillait la nuit pour accomplir le tahajjud, la prière de la nuit, et ça c'est n'importe quelle période de l'année, notre prophète alayhi salatu wassalam avait l'habitude de lire un dua. Allahumma lakal hamdu anta nuru samawati wal ardi wa man fihin wa lakal hamdu anta qayyimu samawati wal ardi wa man fihin wa lakal hamdu anta rabbu samawati wal ardi wa man fihin. Le dua est un petit peu long, mais c'est déjà une sunnah qu'on peut mettre en pratique de cette nuit importante, que quand on se réveille,
on lit le même doua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait lorsqu'il se réveillait la nuit pour la prière de Tahajjud. Et si quelqu'un veut retrouver le doua, hein, c'est tout simplement le livre Hifnul Muslim. Je pense que tout le monde doit avoir ça à la maison. La citadelle, je crois que ça s'appelle comme ça, la citadelle du musulman. Et vous regardez dans le sommaire, il y a, subhanallah, tous les doigts, beaucoup de doigts. Et le gros avantage, c'est que ce sont des doigts qui sont authentiques. Une chose qui n'est pas toujours accessible. Mais là, c'est un travail de recherche qui a été fait. Et ce doigt s'appelle, donc, dans mon édition à moi, c'est la page 56. Et on ne trouve pas de le sommaire, mais ça s'appelle doua. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se réveillait pendant la nuit pour ses prières et il disait. Donc on essaye de retrouver. Si on garde le livre à côté de son chevet, la première chose qu'on fait quand on se réveille, c'est de lire le même doua que le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam lisait lorsqu'il se réveille. Alors, comme on l'avait vu également, il est bien qu'un mu'min prenne conscience que lorsqu'il va se présenter devant Allah azza wa jal, ben il est réellement devant Allah. Allah le voit. Donc, on ne va pas faire son qiyamul layl en pyjama. Hein, on va changer de pantalon, on va mettre quelque chose de plus propre, on va essayer de mettre un beau kafni, on va essayer de se parfumer. Ça, c'est l'idéal. Maintenant, si quelqu'un il veut prendre une petite douche pour être vraiment en forme, alhamdulillah, khair wa ni'ma. D'accord ? Mais on se dit vraiment que Allahu Akbar, ça montre qu'on est conscient qu'on est devant Allah et on se fait beau pour Allah. On se fait beau pour Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième point, notre prophète alayhi salatu wa salam, lorsqu'il commençait le qiyamul layl, il ne commençait pas directement par de longues rak'at. Parce que c'est comme si que le corps en guillemets n'est pas échauffé. Hein, ça va être difficile. Le prophète alayhi salatu wa salam avait l'habitude de faire environ 10 rak'at de tahajjud. Alors si on se fixe comme objectif de faire 10 rak'at, on ne commence pas les deux premiers rak'at avec des rak'at très longs. Le prophète salam commençait toujours les deux premiers rak'at, les deux premières unités de prière par des petits rak'at, c'est-à-dire des surahs moyens. Il ne commençait pas par des surahs qui étaient longs. Donc, si quelqu'un veut commencer pour démarrer tout doucement par « Qul ya ayyuhal kafirun » et « Qul huwallahu ahad » ou alors « Wattini wa zaytouni » des petits surahs, il n'y a aucun problème. D'accord ? On essaie de garder comme objectif 10 rakat. Maintenant, on peut étaler les 10 rakat durant toute la nuit. Si quelqu'un peut faire plus, alhamdulillah, si quelqu'un se sent capable, puis 2 heures du matin jusqu'à 4h30 de combiner, d'enchaîner les salats, c'est très bien. Mais on rappelle encore une fois que le but, ce n'est pas la quantité. Le but, c'est la qualité des prières. Il y avait certains pieux prédécesseurs qui disaient que je préfère me réveiller dans la nuit et faire 2 rakats de tahajjud, mais avec beaucoup de concentration, plutôt que d'en faire 12 et à la chaîne, sans rien comprendre, en étant fatigué, harassé, on lutte contre le sommeil. D'accord ? Donc, si on se dit que je fais 10 rakats, on peut les étaler durant toute la nuit. Et on n'est pas obligé de les faire les uns après les autres. On peut faire 2 rakats et faire des pauses. Et pendant ces pauses, c'est une proposition. Hein, ce n'est pas la sunna, je dis. Mais on peut faire des pauses et faire d'autres ibadahs entre chaque rakat afin de pouvoir, en guillemets, meubler toute la nuit avec différents actes d'adoration sans qu'il y ait al-malal. Al-malal, c'est quoi ? C'est la lassitude. Sans qu'à un moment donné, on est fatigué, on s'ennuie et on veut arrêter, on veut dormir. D'accord ? Alors, les sourates qu'on va lire de le tahajjud, le qiyamul layl, idéalement, il faudrait faire des longs rak'at. Si on lit qul huwallahu ahad, qul a'udhu birabbil falaq, alam tara li ilafi, on ne va pas être motivé parce que c'est les mêmes sourates qu'on lit tout le temps. Chacun parmi nous, si quelqu'un hafidh le Qur'an, ça c'est, alhamdulillah, c'est un grand cadeau de la part d'Allah, mais il lit ce qu'il peut lire. Un ruku, deux ruku, deux pages, trois pages, quatre pages, cinq pages. Et vous allez voir que plus les rakat, les couplets qu'on lit sont longs, plus on sera concentré. Maintenant, si on ne connaît pas le Coran par cœur, mais on connaît au moins sur Yassine, tout le monde connaît Ayatul Kursi, tout le monde connaît l'Illahi ma fis samawati wa ma fil ard avec les Rabbana, 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 la fin du Sourate al-Baqarah. Tout le monde connaît en général sur les Kahf, Tabarak al-Ladhi, Sourate al-Waqi'a. C'est-à-dire, ça, c'est des sourates que le mu'min en général, il connaît. Il essaie d'apprendre durant sa vie, d'accord ? C'est des sourates, tous les sourates sont importants, mais ça c'est des sourates du quotidien, qu'on lit soit tous les jours, soit une fois par semaine. Donc on fait un effort, s'il faut réviser, on révise, comme quand un hafez, un imam, il révise pour Taravi. On fait en sorte que dans les prières de la nuit, je lis des sourates qui sont longs, et qui sont surtout différents de ce que je lis dans Maghrib, Isha, mes sunnat de Dhuhr, parce que sinon là vraiment, ça va passer trop vite. Si je dis Alam Tara li ilafi, ben les 10 rakats, on va les plier en 15 minutes, après on fait quoi ? Après là, justement, on va s'ennuyer. Tandis que si chaque rakat, alhamdulillah, j'ai lu un ruku, deux pages, trois pages, vous allez voir qu'il y aura une certaine motivation. Que ces prières-là se démarquent surtout des prières qu'on fait en temps normal. Et parmi les versets que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de lire dans les qiyam ou les tahajjud, c'est « Inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wa an-nahari la ayatin li ulil albab » avec « Alladhina yadhkuruna Allah qiyama wa qu'uda » après il y a les différents « Rabbana, Rabbana » d'accord. Si dans une des rakat on peut lire cette page, ça fait une page à peu près, c'est également une sunna qu'on a mis en pratique. Alors, ce qu'on peut faire également pour que ces rakat soient vraiment différents de ce qu'on fait en temps normal, il faut savoir que ce sont des rakat nafil. Et dans les rakat nafil, on peut faire les invocations qu'on veut, surtout dans le sijda. Vous savez que la position de prosternation, c'est la position où on est le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certains savants, on n'irait peut-être pas jusque là pour ne pas froisser ceux qui sont très très rigoristes sur certains principes, certains savants sont même d'avis que dans le sijda, on peut faire des doigts dans une autre langue que la langue arabe, dans les namaz nafil. Je vous rapporte l'opinion de certains savants qui sont d'avis que dans le sujoud, dans la prosternation, on peut faire des invocations, ce qui sort de notre cœur, les doigts qu'on fait, les mains levées, on peut le faire dans notre langue. Maintenant, pour ne pas entrer dans les divergences d'opinion de ceux qui disent que l'intégralité de la salat doit rester dans la langue arabe, même si c'est une salat nafil, il y a une autre solution. L'autre solution, c'est de rechercher les différents adhkar, les différentes formules que le prophète sallam lisait dans la salat, mais que malheureusement on a complètement abandonné. Parce que quand on enseigne les enfants à la madrasa, etc., etc., on se focalise sur les adhkars les plus faciles. Subhan Rabbi al-Azim dans le ruku', Subhan Rabbi al-A'la dans le sujoud, dans la prosternation. Et les tahiyyat, c'est les formules de base. D'accord ? Mais il y a beaucoup d'autres formules. Le prophète alayhi salatu wa sallam nous enseignait beaucoup d'autres formules. Et si le musulman, il essaie de lire un petit peu les différentes formules, ben vous allez voir que, alhamdulillah, c'est une source de motivation. Vous lisez un dhikr dans le recours que vous n'avez jamais lu, et à l'avance vous l'apprenez, bien sûr, par cœur, et vous connaissez la traduction, vous allez voir qu'il y aura une autre concentration, il y aura une autre dévotion. Ce sera une rakat, une salat différente. On va commencer par le recours, bien sûr, il y a le classique Subhan Rabbi al-Azim, mais on peut lire également Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli. C'est pas très long, c'est pas très difficile, et on peut le répéter plusieurs fois. Ça veut dire gloire à toi, mon Dieu, mon Seigneur, louange à toi. Ô Seigneur, absous-moi, c'est-à-dire pardonne-moi mes péchés. Subuhun quddusun, ce qu'on lit entre les rakats de Tarawih. Subuhun quddusun rabbul malaikati wal ruh. On peut lire également Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu, etc., etc. Donc il y a dans le même livre, La Citadelle du Musulman, il y a subhanallah 5 ou 6 dhikrs différents. Il y a 5 dhikrs différents qu'on peut lire dans le ruku. Mais c'est bien ça, si on peut mettre en pratique ces sunnahs qu'on a complètement abandonnés en temps normal, c'est une sunnah mise en pratique et ça nous permet de lire un peu autre chose et c'est plus motivant. Également, lorsqu'on se relève du ruku, nous en général on lit Rabbana lakal hamd ou wa lakal hamd ou alors Allahumma Rabbana wa lakal hamd, mais en général on se limite à ça. Alors que le prophète alayhi salatu wa sallam nous enseigne d'autres du'a, pardon, Rabbana lakal hamd hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma baynahuma wa mil ama shi'ta min shay'in ba'd ahlu ath-thana'i wal majd ahaqqu ma qala 'abd wa kulluna lakal 'abd Allahumma la mani 'alima atayt wa la mu'ti lima wa la yanfa'u. C'est parfois des petits morceaux de doigts qu'on connaît déjà, mais on ne savait pas que c'était des doigts qu'on peut lire en se relevant du recours. Mais si on fait une petite révision de ces doigts, ben alhamdulillah, ce sera une salat beaucoup plus, on ne va pas dire attrayante, mais une salat où alhamdulillah, on aura plus de présence d'esprit parce qu'on se concentre sur ce qu'on est en train de lire et ce n'est pas le machinalement subhanarabbil azim, subhanarabbil azim, subhanarabbil azim. Maintenant, on va dire, oui, mais je ne peux pas retenir tout ça. Moi, je connais Subhanallah Rabbi al-A'la, pas de... D'accord, mais est-ce qu'au lieu de lire trois fois Subhanallah Rabbi al-A'la, Subhanallah, lisez-en 7, lisez 9, lisez 11. Mais regardez bien le sens de Subhanallah Rabbi al-A'la, gloire à Allah, mon Seigneur, le Très-Haut. On essaie bien de penser au sens qu'Allah c'est le plus grand, Allah c'est le plus haut, Allah est établi sur son trône, Mustawa al-Arsh, Kama yaliqu bihi Subhanallah, et moi je suis au plus bas. Je mets mon front sur le sol et je suis soumis. Ça, c'est la position du musulman. Le musulman, c'est celui qui a fait istislam lillah, qui s'est soumis à Allah. Donc, je suis dans la position de celui qui est soumis à Allah. Et quand je suis dans cette position, je sais qu'Allah Ta'ala m'aime énormément et qu'Allah écoute mes invocations. C'est-à-dire, même si on ne peut pas mémoriser des longs doigts, le peu de azkar qu'on fait, mais on essaie de le faire plus longtemps et surtout avec dévotion, avec concentration, parce qu'on a la nuit devant nous. On a la nuit devant. Alors également dans le sujoud, on peut lire Subhana Rabbil A'la, bien sûr. On peut lire Subhanak Allahumma Rabbana wa bihamdik Allahumma Allahumma ghfirli. Il y a l'autre doua de tout à l'heure aussi. Subhun Quddusun Rabbul Malaikati wal Ruh, etc. Subhana Dil Jabarut wal Malakut wal Kibriya wal Azama. C'est des doigts très puissants. Sa gloire au roi absolu, au tout puissant, au tout. Ben, la traduction n'est pas terrible. Superbe. Il y a le plus élevé. Et au tout sublime. Ça, c'est des doigts magnifiques, ça. Si on médite un peu sur le sens, on ressent la grandeur d'Allah dans notre cœur. Quand on est en sijda, on dit, nous, on est au plus bas, physiquement, et Allah est le plus élevé. On dit gloire à celui qui est le plus élevé, le plus fort, le plus puissant. On ressent quelque chose. Le iman bouge. Ça fait quelque chose dans la foi lorsqu'on lit ce genre de azkar. Également, entre les deux prosternations, hein, très souvent, beaucoup de gens ne lisent rien. Entre deux prosternations, alors qu'il est sunna de lire au moins Rabbi Irfili, mais également Allahumma Irfili, Warhamni, Wahdini, Wajburni, Wa'afini, Warzukni, Warfa'ni. Et quand on lit ces doigts, on comprend le sens que, oh Allah, pardonne-moi, oh Allah, sois clément vers moi, oh Allah, guide-moi, rends-moi satisfait, accorde-moi ma subsistance et élève-moi, oh Allah. Et entre chaque ruku, sijda, je lis ça et je comprends le sens, ben à un moment donné, on va le dire avec cœur, avec dévotion. Et vraiment, on va ressentir qu'on est en train de demander un doua à Allah dans la meilleure des actions pendant l'accomplissement de la salat. Donc, tous ces doigts-là, on les trouve dans le livre Hisn al-Muslim, qui est vraiment un livre que chaque musulman et musulmane doit avoir à la maison. Et on essaie d'étudier, on essaie de préparer ces doigts afin que lorsqu'on va se tenir en prière, Inch'Allah, on peut les dire. Et également les doigts finales. En général, nous, on connaît Allahumma inni dhalamtu nafsi. Mais vous savez, il y a un doigt que le prophète alayhi salatu wassalam lisait régulièrement à la fin de chaque salat. Il l'enseignait aux sahaba et les sahaba l'enseignaient aux enfants. Et certains sahaba ou tabi'in, si je ne me trompe pas, étaient même d'avis que si les enfants faisaient la salat sans lire ces doigts, ils les demandaient de recommencer la salat. Ça ne veut pas dire que c'est obligatoire, mais ça prouve comment le prophète sallam donnait une importance capitale à ça. C'est ce fameux doigt Allahumma inni a'oudhu bika min adhab al-qabr wa min adhab jahannam wa min fitnat al-mahya wal-mamat wa min sharri fitnat al-masih ad-dajjal. Le prophète sallam le lisait régulièrement. Alors, quand nous on lit Allahumma inni dhalamtu nafsi, on peut lire Allahumma inni dhalamtu nafsi, on peut ajouter ce doigt. On va mettre en pratique une sunna, et quand on pense le sens de toutes les choses contre lesquelles on demande protection, mais Inch'Allah, on va le faire avec concentration. Parce qu'on a besoin, on a dit, de travailler la concentration. Si on a des doigts nouveaux, on est concentré. Et si on a lu la traduction des doigts, ben, il y aura concentration et dévotion, et vraiment on va ressentir qu'on est en train de demander des choses à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'était quelques petits conseils concernant la salat. Comme on a dit également, dans le sijda, on est dans la position la plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. On peut demander d'autres types de doigts. Par exemple, on peut dire tout simplement, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu nadhalimin. Ça, c'est le doigt de la personne qui a fait des péchés, et c'est également le doigt de la personne qui a besoin de l'aide d'Allah. Ben, si on peut le lire 10 fois, 11 fois, 20 fois, 30 fois, en pensant à nos erreurs, nos péchés, ou alors en pensant à un problème qu'on a. Ça, c'est le doigt des Anbiya, ils disaient lorsqu'ils avaient des difficultés. Donc, on pense à nos problèmes et on demande ça, avec beaucoup de sincérité, de dévotion. Inch'Allah, Allah Ta'ala va accepter l'invocation. Comme on a dit, le sijda, c'est la meilleure position pour faire doigt. On peut lire également le Sayyid al-Istighfar. C'est quoi le Sayyid al-Istighfar? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, khalaqtani, wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa'adika mastata'a, jusqu'à la fin. Ça, c'est des doigts qu'il faut apprendre, ça. C'est la meilleure formule pour demander pardon à Allah. On ne peut pas se permettre de mémoriser que Bismillah wa la barakatillah, Allahumma bismika mutu wahya. À un moment donné, il faut monter de classe. À un moment donné, il faut passer un grade supérieur. C'est-à-dire que dans la religion, on a besoin d'avancer, on a besoin d'apprendre, on a besoin de savoir qu'est-ce que le prophète alayhi salatu wasalam disait dans chaque situation de sa vie. Et si ce doigt s'appelle le Sayyid al-Istighfar, c'est le meilleur doigt qu'on peut faire pour demander pardon à Allah Azza wa Jal pour ses péchés. Et si on le fait dans le sujoud, dans le sijda d'un tahajjud, et que c'est un nu du destin, et on pense à ses péchés, et on regrette, il y a des larmes qui coulent, comment voulez-vous qu'Allah n'accepte pas? Comment voulez-vous qu'Allah Azza wa Jal n'accepte pas se repentir avec une telle dévotion et avec une telle formule qui est appréciée par Allah subhanahu wa ta'ala? Et on essaie, ce qu'on appelle at-tabaki, même si on n'arrive pas à pleurer, on essaie de faire, le mot n'est pas juste faire semblant de pleurer, essayer de provoquer les pleurs. Il faut en avoir parlé, ça, dans un programme, des différents hadiths concernant les vertus de la personne qui peut pleurer en pensant à Allah Azza wa Jal. Il faut savoir que la récompense suprême, c'est lorsque le prophète alayhi salatu wa salam dit que parmi les sept catégories de personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah le jour du Qiyama, c'est cette personne qui a pensé à Allah seule. Seul, hein, pas devant tout le monde, c'est Tasbih Allah, il pleure, Allah, astaghfirullah, et tout, et tout. Les gens disent, quel homme pieux, regardez comment il pleure, vous avez péché. Ça, c'est l'ostentation. Alors, il n'est pas à aucune place, lui. D'accord? Mais quelqu'un, le hadith dit bien, ذكر الله خاليا ولو في خلوة. Une personne qui fait le dhikr d'Allah seul. Personne ne le voit. ففاضت عيناه. Tellement il le fait avec amour et dévotion que des larmes se mettent à couler de ses joues. Ça arrive, ça. Mais ça n'arrive pas des premiers rakats de tahajjud. Ça arrive après 2, 4, 6 rakats, après des azkars, quand le cœur est emballé. Quand le iman commence à bouillonner un petit peu. On ressent la lumière d'Allah dans le cœur, c'est la rahma qui descend. Là, quand on fait des doigts, quand on demande l'istighfar, là, il y a des larmes qui peuvent couler. On essaie de provoquer ça. On essaie de provoquer ça. Et la meilleure façon, c'est vraiment de se rappeler de ses péchés, d'avoir honte et de demander à Allah avec dévotion. Et également se rappeler de la grandeur d'Allah. Deuxième point, se rappeler de ses péchés, se rappeler de la grandeur d'Allah, qui est-ce qu'on est en train d'invoquer, et se rappeler de l'au-delà également, des difficultés, de toutes les étapes de l'au-delà, où on aura grandement besoin de la clémence d'Allah. Parce qu'on a dit que personne n'entrera au paradis par ses actions. On va entrer au paradis uniquement par la clémence d'Allah. Et la clémence d'Allah, on essaie de l'obtenir dès maintenant. Le jour des comptes, on a espoir, mais dès maintenant de ce dunya. Et dans ces nuits-là, avec beaucoup de baraka, beaucoup de bénédictions, on doit penser qu'on a besoin de la clémence d'Allah. Si on pense à tout ça, Inch'Allah, le cœur va bouger et on pourra pleurer en invoquant Allah. Inch'Allah, on fera partie des gens qui seront sous l'ombre du trône d'Allah parce qu'ils auront fait le dhikr d'Allah, ils auront pensé à Allah seul et des larmes se seraient coulées de leurs joues. Ce qu'on peut faire également, comme on a dit tout à l'heure, entre les deux rakats, si on fait des rakats qui sont très longs, tous les deux rakats, on s'arrête et on peut lire par exemple 100 fois, 200 fois, Allahumma inna, le doua matnoun, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa, fa'fu anni. D'accord? Fa'fu anni, c'est quand on lit le doua seul. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa, fa'fu anni. Si quelqu'un dit Allahumma innaka afuwun karimun, il n'y a pas de problème aussi, tuhibbul afwa, fa'fu anni. Aïcha radiallahu anha, avait demandé au Prophète sallam, si c'est la nuit du destin, qu'est-ce que je dois dire? Le Prophète sallam l'a enseigné ce doigt. Donc on essaie de lire, le mot 100, c'est moi qui le dis, mais si vous faites 50, c'est comme vous voulez. C'est-à-dire, c'est ça, on ne doit pas fixer de chiffres pour pas qu'on pense que voilà, c'est ça qui est masnoun, c'est pas masnoun. On essaie de faire autant qu'on peut, au mieux. Quand on voit qu'on est fatigué, on s'arrête. Tant qu'on voit que quand on continue à lire, on le ressent de plus en plus, il y a le iman qui monte, on est en train de vraiment maîtriser le dhikr. Ce dhikr qu'on est en train de dire, on le ressent vraiment, on ressent la grandeur d'Allah, on continue, il ne faut pas s'arrêter. Il ne faut pas s'arrêter parce que là on est dans une bonne voie. Mais quand on voit qu'on commence à se lasser un petit peu, là on s'arrête. On peut lire un peu le Coran, on peut faire autre chose, mais vraiment, le Coran c'est bien de le lire, mais on essaie de rester soit en salat, soit en doua. On a vu hier ou avant-hier, je crois que c'était Soufiane al-Thawri, rahimahullah, qui disait que moi, dans la prière, dans la nuit du destin, je préfère passer plus de temps dans les doua. D'accord? Donc, voilà. Puis il y a certaines personnes qui disent aussi que, c'est ce qu'on voit un peu sur internet, qu'on essaie de faire les prières ratées, les kazas, comme on dit, hein, les prières qu'on a ratées. Je ne suis pas de cet avis. Je ne suis pas de cet avis, la nuit du destin. Ce n'est pas une nuit pour faire les prières qu'on a ratées il y a 2 ans, 3 ans, les prières de rattrapage, c'est plutôt une nuit pour faire le qiyam ou l'ayl. Ça c'est mon opinion, ça n'engage que moi. Puis vous savez aussi que concernant le qaza, dans certains madhab, il n'y a pas de qaza. Chez Imam Ahmad par exemple, dans le madhab, il n'y a pas le qaza systématique, comme nous on dit qaza umri et tout. Ça c'est juste une petite parenthèse, mais c'est plus grave encore. Pourquoi est-ce que c'est grave? Ça ne veut pas dire que Allah pas qaza, pas besoin, il fait non. Au contraire, c'est-à-dire qu'ils sont plus rigides. Ils sont plus durs. C'est-à-dire que la salat que tu as ratée, tu l'as ratée. On sort à où? Il n'y a pas de rattrapage. Il y a des gens qui se disent que bon, écoute, je ne fais pas namaz, hein, mais le travail me fait kaza à soi. C'est comme si c'est devenu un automatisme. Écoute, je travaille, ma pause c'est jusqu'à midi, je ne peux pas faire autrement. Je reprends le travail midi et demi, jusqu'à 16h, je ne fais pas zohar. Qu'est-ce que je peux faire de mieux? Et la personne ne se fait pas de soucis. Pour lui, c'est automatique ça. Le soir, quand il a case, je rattrape mon zohar, mon asar, mon maghrib. Et pour lui, je suis un bon musulman, j'ai rattrapé. C'est comme si au lieu de payer l'échéance, c'était 14h, je paye à 16h. Ça ne se passe pas comme ça. Dans d'autres madahib, la salat que tu as ratée, il n'y a pas de rattrapage. Ce que tu as raté, c'est un fardeau. C'est ça qu'il dit qu'un mu'mine qui perd une salat, qui a raté une salat, c'est pire que s'il avait perdu sa famille, ses biens et tout. Tellement il doit être triste. Le problème, c'est que si à chaque fois on s'habitue à faire le kaza, on n'est pas triste. J'ai raté, je rattrape, je suis couvert. C'est comme si que je suis couvert. Donc, qu'on comprenne bien qu'on essaie de passer l'intégralité de cette nuit dans le tahajjud, dans les doigts et dans Shiatka. On peut lire également le salat al-Nabi, hein, comme on dit ici les durud sharif, les tahli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, le sayyid al-istighfar et un peu de lecture du Coran. Maintenant, ça c'est un point important, quand on fait la prière de la nuit, il y a des moments où on sera fatigué, surtout si on fait des durakad comme pour le qiyam pour le salat al-tarawih. Quand vous sentez vos os qui sont fatigués, commencent à craquer, les jambes commencent à avoir un peu de crampes et commencent à se fatiguer, vous savez qu'est-ce qu'il faut se dire? Il faut dire, c'est comme si vous parlez à votre propre corps, vous dites que ben, vous avez été créé pour ça. C'est pas qu'on va se reposer. Nous dresse Ali. Dit wa ma khalaqtul jinna wal insa illa li ya'budun. Moi j'ai été créé pour ça. Ces os, ces muscles qu'Allah nous a donnés, c'est pas pour les défouler sur les terrains de foot, pour se faire des entorses, pour faire des ruptures de ligaments. On voit des jeunes faire salat sur la chaise et tout, oui, ruptures de ligaments. Le corps qu'Allah t'a donné, mon frère, le muscle, la santé qu'Allah t'a donné, c'est pas pour les éclater sur les terrains de foot. Utilise-les pour l'adoration d'Allah. On a été créé pour l'adoration d'Allah. On est fatigué, on a été créé pour ça. Mon corps, c'est un dépôt, c'est un amana. Il m'a été donné pour l'utiliser dans l'adoration d'Allah. Donc, on ne cède pas. On ne cède sous aucun prétexte. Il ne faut pas qu'on se dise, ben là, je suis fatigué, je fais une pause, je vais m'allonger. Vous vous allongez, c'est fini. On essaie de rester au mieux éveillé, on essaie de se motiver de différentes façons, mais on essaie de, subhanallah, bien ressentir que je suis là, j'ai été créé pour l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Et se rappeler quelles seront les récompenses, Inch'Allah, Inch'Allah, le jour des comptes. Et il ne faut pas faire du dhulm sur son corps, certes, mais là, c'est des moments importants. Là on ne peut pas laisser ces moments-là passer. Et puis, le maximum de temps aussi, on peut passer dans les doigts. Comment faire les doigts? On avait déjà expliqué. On commence toujours le doigt en lisant la salat ala nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma barik ala Muhammad. Idéalement, ça c'est la meilleure solution pour qu'un doigt est accepté. C'est de commencer les doigts en invoquant Allah par ses asma'ul husna, sifatul ula. Ses noms et ses attributs. Un musulman doit connaître les noms d'Allah. Un musulman doit connaître les attributs d'Allah. On doit demander, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim, Ya Rabbal Alamin, Ya Ahadan, Samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, etc. Et idéalement aussi, les ulama disent que, mais ça c'est un peu plus technique, hein, les noms d'Allah qu'on cite doivent être en rapport avec la demande. Si on a un problème avec quelqu'un vous fait du mal, on dit, oh Allah, protège-moi cette personne, fais en sorte qu'il ne peut plus me faire du mal, on va demander, Ya Rab, Ya Azim, Ya Qahhar, Ya Jabbar. On demande les noms sublimes d'Allah en rapport avec la force, la puissance, que c'est Allah qui est fort, c'est pas lui. Que la personne veut vous écraser, on demande à Allah de l'aide. Si on a besoin de la clémence d'Allah, on va dire, Ya Rahim, Ya Wadud, Ya Karim. Les noms en rapport avec la gentillesse, la bonté, l'amour qu'Allah donne à ses créatures. D'accord? Bon, ça c'est un niveau un petit peu plus avancé, mais on essaie de citer les noms d'Allah au début, avant de commencer les invocations. Et puis il y a des invocations jami'a, nas'aluka bi asma'ika al-husna wa sifatika al-ula. Ça on connaît un petit peu, bi kulli ismin huwa lak samita bi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw أحد من خلقي أو استأثرت به في علم غيبك عندك ولا plus facile نسألك باسمك الأعظم أو الله nous t'invoquons par le plus grand nom الذي إذا سئلت به أجب celui par lequel lorsqu'on t'invoque tu acceptes l'invocation et puis là on démarre et puis là on demande les doigts en priorité les doigts en rapport avec notre iman le delà et ensuite on va vers les doigts de dunya et il était d'Abdul Prasad lorsqu'il demandait un doigt de le répéter trois fois. Maintenant, les doigts qu'on doit. Et quand on demande doigts, on garde bien l'esprit, on va terminer, qu'on est en train de s'adresser à Allah, celui qui est tout puissant, celui qui a rendu le feu, bardan wa salaman ala Ibrahim, celui qui contrôle tout, celui qui fait ce qu'il veut. Inna ma amruhu idha arada shay'an yaqul lahu kun fayakun. Allah ordonne et la chose, hein, elle s'exécute par ordre d'Allah Azza wa Jal. On demande à ce même Allah qui a fendu la mer pour Moussa alayhi salam, ce même Allah qui a fendu la lune pour le Nabi alayhi salatu wa salam, ce même Allah qui a accordé un enfant Ibrahim alayhi salam un âge avancé. Si je suis papa, si je suis marié depuis 10 ans, j'ai pas d'enfant, ben je dois, quand je demande doigt, je dois me concentrer en me disant qu'Allah ta'ala a accordé Ibrahim alayhi salam un fils alors que son épouse était très âgée. Allah est capable. Je dois penser à l'histoire qu'on avait racontée il y a quelques semaines aussi. Mariam alayhi salam, Allah lui a accordé un fils sans qu'il n'y ait de père. Allah, il est capable de tout. Donc, on doit essayer de se rappeler de tout ça. Si c'est pour quelqu'un qui est malade, on doit se rappeler l'histoire de Daoud, de Ayyub alayhi salam. Allah lui a accordé la santé après une maladie que personne de l'humanité n'a connue. tel degré de maladie, pendant combien de temps? 18 années de maladie, Allah Ta'ala lui a accordé la santé. Donc, on doit avoir la conviction qu'Allah est capable de tout, et on doit se rappeler qu'est-ce qu'Allah Ta'ala a fait, les faveurs qu'il a accordées à ses prophètes lorsqu'il l'invoquait, il demandait de voir Allah subhanahu wa ta'ala. Et moi, j'aime bien, on répète l'expression, hein, la phrase de Cheikh Maram ici hier, tout ce que tu as sur le cœur, tes rêves, tes péchés, tes défauts. Chaque être humain a des rêves. On a des attentes pour nous, pour nos enfants, nos attentes de réussite pour eux. Tout le monde, on aimerait voir un jour nos enfants réussir, avoir un beau métier, alhamdoulilah, qu'ils soient autonomes financièrement, qu'ils aient le digne de leur vie, qu'ils aient une bonne épouse, hein, qu'alhamdoulilah, ils réussissent, qu'ils aient une reconnaissance. Ça, c'est tous les pères qui veulent ça pour les enfants. Ça, c'est des sentiments naturels, ça. Mais à qui vous allez demander? Au président du conseil général? Du conseil régional? Au préfet? Au maire? Je dis tout, hein, pour brasser, pour pas dire que nous avons des tendances. Est-ce qu'on va demander au président, au ministre? Non. À qui? À Rabbul Izzah. On demande à Allah Azza wa Jal. C'est celui qui prend les décisions. Parce que nuit du destin, mes chers frères, nuit de taqdir, où Allah prend des décisions pour nous. Où Allah, celui qui prend les décisions, prend les meilleures décisions pour moi, pour mon épouse, pour mes enfants, pour mes petits-enfants, pour etc., etc., pour ma santé, pour Allah, tout ce qu'on peut avoir comme souhait, c'est vraiment le moment de demander à Allah subhanahu wa ta'ala avec conviction iman yaqine qu'Allah azza wa jal va accepter. Et puis dernier petit truc, c'est vraiment épuisé, il y a parfois des livres de doigts qui sont imprimés avec, mais toujours on recherche des doigts qui sont thabit, qui sont authentiques, pas des doigts qui ont été inventés par un moun il y a 2 ans ou il y a 14 jours, d'accord, des doigts qui sont authentiques, le prophète lisait régulièrement. Il y a des compilations. En général, on les achète à Makkah, Medina. L'idéal, c'est quand c'est traduit en français aussi. Donc là, ça, c'est des petits livres qu'on peut amener, qu'on peut acheter, qu'on va en marais et tout. Ben, si vraiment on est KO, on n'en peut plus, on est à court d'idées et qu'on craint de s'endormir, ben, on peut se motiver de la sorte, prendre un livre de doigts et lire un petit peu les doigts en arabe et puis le lire en français aussi. Mais on essaie de rester, inshallah, éveillé et faire les. Mais ça, c'est des astuces, hein. C'est des trucs pour essayer de meubler au maximum la nuit. Et après. Deux choses après le ibadah, il y a 3 choses. 1, on doit avoir conviction, avoir espoir qu'Allah accepte. Espoir qu'Allah accepte. Et comme c'est un verset du Coran que j'essaie de me rappeler, ça ne me revient plus. Les sahaba, après avoir accompli les actions, ils avaient peur. Aïcha a dit au prophète d'Allah, peur de quoi? En rapport avec un verset, il dit, est-ce que c'est quand le pécheur a fait des péchés, il a peur? Il dit non. C'est quand le mu'min a accompli de bonnes actions, il a peur. Est-ce qu'Allah a accepté, oui ou non? Est-ce que je l'ai bien fait? Est-ce que j'étais assez concentré? Est-ce que j'étais assez sincère? D'accord? En même temps, on aimerait, on a cette petite crainte, mais en même temps, on se dit que non, Allah, il est généreux, il est clément, inshallah, il va accepter mon istighfar, il va accepter mes doigts. Et l'étape cruciale, après, quand on a vu qu'on a passé une nuit à ibadah, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut protéger ses amals. Tous ces hasanats qu'on a accumulés, est-ce qu'on est prêt le lendemain à lui donner aux gens? Jamais. Et comment est-ce qu'un mu'min donne ses hasanats aux gens? En faisant le riba, en faisant le bohtan, la calomnie, la médisance, en insultant les gens. On a vu le hadith al-Namima, le prophète dit le jour des comptes. Les gens, ils viennent devant Allah avec des montagnes de hasanats, de bonnes actions. Pour eux, ils sont jannati direct. Mais ils ont fait du mal aux gens. Et donc, le jour des comptes, Allah Ta'ala prend les bonnes actions donnent aux gens. Donc les actions qu'on a fait après les avoir accomplies, il faut les protéger. Et la meilleure solution pour les protéger, c'est contrôler sa langue et essayer d'éviter au maximum les péchés. Mes chers frères, qu'Allah nous accepte. On était un petit peu long, mais maintenant les autres nuits impaires, on fait plus de programme. Parce que les nuits impaires, dès que c'est fini, on rentre à casa direct, d'accord? Les autres nuits impaires, on fera plus de programme, mais qu'on se concentre, inshallah, sur cette nuit de 23e, la 25e, la 27e et la 29e, et qu'Allah choisisse chaque personne présente dans cette assemblée, hein, pour être parmi les personnes qui seront présentes lors de la nuit du destin. Qu'Allah donne tawfiq de faire le maximum de a'mal et qu'Allah accepte nos doigts, nos invocations et nos istighfar. Subhan Rabbika, Rabbil Izzati Amma Yasifun, wa Salamun ala al-Mursalin, wa akhru da'wana, anil hamdulillahi rabbil alamin.